Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Nous serons à Dakhla pour parler du Forum africain de l'industrie de la pêche et de l'aquaculture, Seafood for Africa 2024. L'objectif est de faire du secteur de la pêche un accélérateur du commerce intra-africain. Vous aurez les détails dans un instant. Et nous irons également au Sénégal où se tient la 32e édition de la Foire internationale de Dakar, la FIDAC. La FIDAC qui connaît une participation étrangère à l'instar des commerçants marocains, vous les entendrez. Et nous irons donc sur place pour vous faire vivre l'ambiance. Enfin, notre destination éco de la semaine nous mène au Kenya, un important marché de plus de 50 millions de consommateurs en Afrique de l'Est. Le Kenya est un pays touristique et qui offre aussi pas mal d'opportunités d'investissement. Vous en saurez davantage en fin d'émission. Tels sont les principaux sujets de Coémergence. Tout de suite, le développement.
Les échos de la semaine.
Je vous le disais à l'instant, direction Dakhla, la perle du sud marocain. Et c'est pour parler du Forum africain de l'industrie de la pêche et de l'aquaculture, Seafood for Africa 2024. L'événement vient de se tenir sur place. L'objectif est de faire du secteur de la pêche un accélérateur du commerce intra-africain. Je vous propose d'écouter Hassan Sentissi El Idrissi. Il est le président de la Fédération nationale des industries de transformation et de valorisation des produits de la pêche, la FENIP.
La FENIP que je préside, n'est-ce pas, s'est engagée depuis fort longtemps à diversifier nos ventes et nos achats. Mais comme l'avait annoncé et dicté notre roi bien-aimé, eh bien, écoutez, il nous a paru que c'était tout à fait normal de créer, d'organiser un forum où seuls les Africains seraient entre eux, n'est-ce pas? Et comme ça, on va essayer de relever nos échanges, aussi bien à l'achat qu'à la vente, et de prouver que l'Afrique est capable de gérer elle-même ses propres profits.
Vous venez d'entendre Hassan Sentissi El Idrissi, le président de la Fédération nationale des industries de transformation et de valorisation des produits de la pêche, la FENIP. À noter que cet événement intervient cette année à l'heure où certains pays du continent mettent le cap sur la valorisation et la transformation locale de leurs ressources halieutiques. C'est le cas du Sénégal qui se félicite du non-renouvellement des accords de pêche qui le liaient à l'Union européenne. Et on met justement le cap sur le Sénégal, où se tient la 32e édition de la Foire internationale de Dakar, la FIDAC, qui connaît une importante participation étrangère à l'instar des commerçants marocains, comme nous le dit notre correspondant sur place, Abdourahim Bari. Dans son sujet, vous entendrez des ressortissants étrangers de plusieurs pays. Direction donc Dakar.
L'événement économique au service de la promotion touristique, c'est le thème retenu pour cette 32e édition de la FIDAC. La Foire internationale de Dakar, un événement organisé par le Centre international du commerce extérieur du Sénégal, CICES. Cette édition réunit plus de 2000 exposants nationaux et internationaux venus de plus de 40 pays.
Ça a bien démarré. Ça a bien démarré parce qu'au premier jour, on a noté beaucoup d'entrées. Il y a beaucoup d'étrangers également. Tous les pavillons sont remplis à plein. Actuellement, je crois que la CICES va battre un record qu'on n'a jamais eu fait.
La FIDAC est aussi une occasion de découvrir la diversité des produits établir des partenariats et participer à des échanges culturels. Pour cette année, la République de Guinée et le Rwanda sont les pays invités d'honneur.
Se déroule très bien, surtout la première journée qu'on est venu. On a eu un engouement vraiment impressionnant. Le monde se sont déplacés, les Sénégalais, toute la communauté de la Guinée. Nous évoluons dans la production et la commercialisation du chocolat made in Guinée. On a les pâtes à tartines. C'est pour vous dire qu'on a plusieurs gammes de chocolat faits en Guinée.
Dieu merci, nous avons une bonne organisation cette édition 2024. Elle est meilleure que l'édition passée. Les choses marchent bien, grâce à Dieu.
La foire internationale de Dakar est devenue l'un des plus grands événements économiques du Sénégal. La FIDAC est aussi une vitrine de promotion de divers produits et services, de création, de contacts d'affaires.
Merci à vous, Abderrahim Bari, un de nos correspondants à Dakar.
Coémergence, l'invité.
Retour au Maroc, où le roi Mohamed VI a présidé un conseil des ministres consacré en grande partie à l'organisation du Mondial 2030. L'occasion de reparler de l'économie du sport en Afrique avec Will Mbiakop, spécialiste du sport.
Alors, le sport en Afrique, économiquement parlant, ne vaut pas le talent extraordinaire que l'Afrique a produit depuis des décennies pour faire rayonner l'économie du sport mondial, qui est aujourd'hui de 2 à 3% du PIB mondial. Donc, on pense bien entendu à Hicham El Guerrouj qui vient du Maroc, mais bien entendu Didier Drogba au football, Samuel Eto'o, Mo Salah, Sadio Mané, etc., etc. Donc, des grands talents qui ont contribué à faire que des grands clubs mondiaux, hein, Chelsea, je pense aussi à la NBA avec Joel Embiid, etc., etc. Toutes ces grandes ligues ont généré d'énormes revenus, des milliards de dollars de revenus, mais malheureusement en Afrique aujourd'hui, c'est à peu près 0,5% du PIB africain, donc c'est absolument minuscule et pas à la hauteur de l'incroyable talent africain au niveau sportif, mais également de l'énorme marché que représente l'Afrique, un marché de 1,4 milliard de personnes.
C'est important à noter, donc retenez bien ce chiffre, hein, le sport en Afrique équivaut pour le moment à 0,5% du PIB du continent, ce qui en dit long sur le potentiel de développement de cette industrie. Justement, comment développer le sport africain, comment le rendre plus rentable, Will Mbiakop?
Écoutez, il y a plusieurs éléments à considérer. Nous, au sein de l'Institut et en partenariat avec Mazars, nous avons développé un survey, donc une enquête d'opinion auprès de 2000 acteurs de l'écosystème du sport africain. On leur a donné la parole en leur demandant quel est l'état de lieu, quels sont les challenges, mais également quelles sont les opportunités que vous voyez au sein de l'écosystème. Alors, ce qu'on apprend, c'est que, grand 1, on a absolument besoin de davantage de data. Donc la donnée est absolument manquante. On a besoin de davantage de data pour comprendre notre environnement, c'est-à-dire qui consomme le sport, quand est-ce qu'il le consomme, comment il le consomme, comment il le pratique également ce sport-là, à quelle hauteur, sur quel segment. Donc la première chose, c'est absolument avoir besoin de davantage de data, de données. La deuxième chose, vous savez, l'Afrique, l'atout numéro un de l'Afrique, c'est son capital humain. Cependant, aujourd'hui, le capital humain n'est pas formé. Donc, on a absolument besoin de développer davantage de compétences, de faire en sorte qu'on ait des formations meilleures en sports management pour faire en sorte que demain, nous ayons des gens qui soient compétents à la direction du sport. La troisième chose dont on a besoin, c'est de faire en sorte que les gens comprennent que le sport est un business. Donc, faire en sorte qu'on comprenne que le sport est un produit marketable et un produit rentable. Et donc, il faut absolument monétiser le sport et casser le prisme qui est le suivant, à savoir l'économie du sport est absolument basée sur la compétition professionnelle. Ça, c'est un prisme qu'il faut absolument oublier. La compétition professionnelle est absolument importante. Les méga-events, ce qu'on appelle les Jay-Z, hein, les grands événements sportifs internationaux comme la Cannes, par exemple, sont absolument nécessaires et c'est fabuleux. Maintenant, l'économie du sport en Afrique est basée sur la consommation et la pratique quotidienne du sport par les ménages. Donc je le redis une deuxième fois parce que c'est extrêmement important. L'économie du sport est absolument basée sur la consommation et la pratique du sport au quotidien par les ménages.
Quels sont les pôles de l'économie du sport en Afrique? Quand je dis les pôles, quels sont les pays qui se distinguent, qui parviennent à faire émerger une industrie du sport qui est sur les rails et qui, peut-être dans les années à venir, pourrait être aussi prometteuse que ce que l'on voit ailleurs?
Bon, écoutez, c'est une excellente question. Il y a quelques pays qui se démarquent effectivement. On va commencer par l'Afrique du Sud, qui est une des économies les plus avancées. Elles sont peut-être la deuxième économie derrière le Nigeria aujourd'hui sur le continent. Donc effectivement, eux, ils ont une économie très avancée au niveau du sport, avec des piliers comme le rugby, bien entendu, le football et le cricket notamment. Donc là, ils ont développé une industrie qui couvre l'ensemble de la chaîne de valeur avec des acteurs qui sont assez performants. Donc on va mettre la lumière sur l'Afrique du Sud. L'autre pays qui est émergent et qui a utilisé le sport à double escient, à savoir un vecteur de socle social, donc la cohésion sociale comme on l'appelle, mais également vecteur de développement économique et vecteur de diplomatie sportive. Et là, je pense au Rwanda. Effectivement, le Rwanda, vous savez, à la sortie du génocide en 1994, le génocide contre les Tutsis, ils ont utilisé le sport pour rassembler les gens. Ils ont lancé également le Car Free Day, donc une journée complète où il n'y a pas de voiture pour encourager les gens à faire du sport. Ils ont lancé les campagnes Visite Rwanda. Vous avez vu Visite Rwanda sur les maillots d'Arsenal, Paris Saint-Germain et puis récemment le Bayern en Allemagne. Donc pas mal d'investissements. Ils ont investi également au niveau infrastructure, 104 millions de dollars pour construire la Kigali Arena, cette magnifique arène de 10 000 places qui pourra accueillir des méga-events, que ce soit la NBA ou autre. Donc, et c'est également pour eux un outil d'influence, puisqu'à l'international, on voit de plus en plus le Rwanda apparaître pour encourager le tourisme également. Donc ça, c'est le tourisme sportif. Bien entendu, je suis obligé de citer récemment nos amis de la Côte d'Ivoire, hein, qui ont investi 1,2 milliard d'euros environ pour accueillir la CAN et utiliser la CAN comme catalyste d'infrastructures. Donc il y a notamment la côtière qui relie Abidjan avec le reste de la Côte d'Ivoire et d'autres infrastructures au niveau sportif. Et puis bien entendu, le dernier qui est certainement pour moi le leader sur le continent, c'est le Maroc. Le Maroc avec une belle performance sportive lors de la Coupe du Monde qui finalement est la suite logique d'investissements qui ont eu lieu depuis des années. On a investi sur le talent sportif marocain, là c'est dans le football, mais il y a également d'autres sports où le Maroc rayonne. Je pense à la boxe notamment avec Khadija Mardi, olympienne, hein, qui va certainement gagner quelque chose à Paris. Là. On doit également noter 500 millions d'investissements du Maroc sur le stade qui sera à Mohamedia, le plus grand stade d'Afrique. Hein. On annonce un stade avec 100 000 places, un stade extraordinaire qui sera là pour accueillir la Coupe du Monde. Et à nouveau, je note le côté, bien entendu, investissement infrastructure, mais on va au-delà de ça. On va au niveau du développement du talent, bien sûr. On va au niveau du tourisme sportif. Vous savez, Oumar, que le touriste sportif dépense en moyenne 20% de plus que le touriste traditionnel.
Intéressant.
Donc ça, c'est quelque chose de très, très, très important pour le pays.
Que ce fut un plaisir de vous écouter, Will Biakop. Je rappelle que vous êtes donc expert en économie du sport. En tout cas, vous nous avez donné l'envie non seulement de faire du sport, mais aussi d'investir le domaine du sport en tant qu'investisseur. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Coémergence, Will Biakop. Et certainement, avec tous les rendez-vous sportifs qui se profilent à l'horizon, on aura le plaisir de vous réécouter à nouveau dans Coémergence.
Merci beaucoup, merci d'avoir accueilli.
Merci à vous.
Zoom Express.
Et nous parlons à présent de cette diaspora africaine qui investit en Afrique et qui contribue au développement du continent. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexander Adjovi. Il est ressortissant togolais basé en Allemagne. Il est le dirigeant donc de l'entreprise B2Day. C'est un cabinet de conseil et de gestion de projets basé en Allemagne avec une filiale en France et au Togo. Mais aussi, il développe des projets au Togo, notamment dans la transformation de produits tropicaux, notamment les mangues, oranges et autres ananas que vous connaissez bien et dont on raffole bien évidemment. Donc, transformer ces produits tropicaux en jus de fruits et dérivés pour le marché africain et in fine à l'export vers l'Europe et d'autres parties du monde. Bonjour à vous, Alexander Adjovi, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour. Bonjour.
Alors, pour parler donc de ce projet, nous sommes avec le directeur général de la plateforme Best Afrique qui contribue à connecter les Africains, Africains investisseurs et ceux de la diaspora, bien évidemment, Moustapha El Bouri. Bonjour Moustapha El Bouri.
Bonjour.
Bonjour. Alors, tout d'abord, Alexander Adjovi, est-ce que vous pouvez davantage nous développer cette activité que vous menez sur le continent et qui, en tout cas, peut être qualifiée de transfert de technologie ou bien de réinvestissement en Afrique pour la diaspora?
Oui, bonjour. Alors, hein, merci pour l'invitation déjà. Donc, Alexander Adjovi, donc je suis d'une formation ingénieur qualité en Allemagne. Et donc, je gère donc un cabinet, le cabinet B2D. Basé, comme vous l'avez dit, hein, basé en France et en Allemagne, et puis une filiale au Togo, que je développe depuis quelques années. Donc, je suis actuellement au Togo, et donc j'explore quatre pays, le Togo, le Bénin, le Burkina et le Ghana, où je suis en train de faire un état des lieux, hein, dans ce domaine-là particulier, donc le domaine de transformation des produits tropicaux, notamment quatre produits, dont les mangues, les oranges, les ananas et puis aussi la banane. Donc l'idée derrière, c'est effectivement de voir ce que certains savent faire et que d'autres ne savent pas faire. Et donc les résultats sont assez intéressants et encourageants. Mmh. Je suis allé au Burkina, j'ai vu ce qu'ils savent faire. Au Togo, j'ai vu ce qu'ils savent faire aussi. Au Ghana et puis au Bénin. Mmh. Alors ce qui est assez rassurant dans ce secteur d'activité assez particulier, c'est que nous avons des saisons où on produit beaucoup ces fruits-là, mais on ne sait pas les conserver, on ne sait pas les transformer. Mmh. Donc l'idée pour moi aujourd'hui, c'est de pouvoir, pendant ces saisons-là, transformer ces produits et pouvoir les évacuer sur le marché africain, mmh. Donc pour un départ, et après, comme vous l'avez très bien dit, pouvoir donc, les exporter vers l'Europe. Et puis le monde, pourquoi pas.
Mmh. En tout cas, c'est une niche très importante. Alors, ça me permet de donner la parole à Moustapha El Bouri, donc directeur général du cabinet Best Afrique. Alors, Moustapha El Bouri, sentez-vous ce besoin entre producteurs, agriculteurs africains locaux et disons financiers ou investisseurs de la diaspora, à l'image d'Alexander Adjovi, de développer cette filière de transformation des produits agricoles?
Oui Omar, en effet, aujourd'hui si on fait le bilan des produits qui sont vendus bruts à l'export de l'Afrique subsaharienne vers l'export, on arrive à un taux de 90%. Donc on a à peine un taux de 10% de produits transformés. Donc en fait, la filière, elle est vraiment vierge. Il y a énormément à faire. Et c'est vrai, comme l'a dit Alexander, moi j'ai vu aussi de visu dans beaucoup de pays où on voit une grosse partie de la production qui pourrit, qui tombe et qui n'est pas ramassée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore les mesures, on n'a pas les infrastructures pour les conserver et il n'y a pas assez d'usines de transformation, il y en a très peu. Mmh. Donc l'idée d'Alexander, elle est excellente. Ils ont déjà acquis un terrain, il ne l'a pas mentionné, mais au Togo, ils ont déjà acquis un terrain qui fait pratiquement 50 hectares. Donc ça va être une grande infrastructure. Et derrière, il a mis en place un réseau de financement également. Donc,
justement,
oui, comme vous l'avez dit, je pense.
Justement, oui. j'allais poser cette question-là à Alexander. C'est justement de savoir aujourd'hui, par rapport à la disponibilité du financement et des mécanismes d'aide à la concrétisation de ce genre de projet, où est-ce que vous en êtes, Alexander?
C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à prendre contact avec M. El Bouri. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi m'accompagner dans ce sens-là. De voir quelles sont aujourd'hui les opportunités les pistes possibles de financement. Il y en a plusieurs, hein, dont les financements participatifs et autres. Donc, nous y travaillons sérieusement là-dessus pour y trouver des solutions adaptées à nos pays, surtout. Et surtout, parce que nous ne voulons pas aller ailleurs chercher ce financement-là. Mmh. Il faut qu'on trouve les solutions propres à nos pays.
Mmh. Est-ce qu'il y a, parmi cette diaspora africaine en Afrique et ailleurs, des profils ou bien des acteurs qui appuient ce genre d'initiative?
Oui, il y en a déjà, mais bon, c'est vrai qu'il faut, plutôt élargir son champ de recherche, hein. c'est, pour l'instant, ce n'est pas encore très bien. C'est des pistes que nous ne maîtrisons pas très bien. Mais nous pensons qu'avec un peu de, enfin, un peu de recherche, nous pouvons sérieusement tomber sur des pistes intéressantes. Et je pense que Best Afrique va jouer un rôle important dans ce domaine-là.
En tout cas, c'est à suivre. Merci à vous deux, Moustapha El Bouri, directeur général de la plateforme Best Afrique, qui connecte donc les investisseurs de la diaspora africaine basée en Afrique, mais aussi en dehors, mais aussi les étrangers basés sur le continent. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ainsi donc qu'à Adjovi Alexander, donc responsable de B2Days. Merci d'avoir accepté notre invitation à vous deux.
Merci
à vous, Omar. À très bientôt.
Destination Éco.
Notre destination éco de la semaine nous mène au Kenya, un important marché de plus de 50 millions de consommateurs en Afrique de l'Est. Le Kenya, qui dit le Kenya, pense certainement au secteur touristique, notamment les safaris. Le Kenya offre aussi pas mal d'opportunités d'investissement. Et c'est ce que nous dit Idriss Lingé, directeur des rédactions de Media Mania, qui édite entre autres l'agence panafricaine Ecofin, spécialisée dans l'économie et la finance. Idriss Lingé, à vous la parole.
Bonjour Omar Baldé, bonjour à tous les auditeurs de Midi 1 Radio. Aujourd'hui, nous partons au Kenya. Pour les Marocains qui ne savent pas, le Kenya est un pays de l'Afrique de l'Est qui est bordé par l'océan Indien, oui, au niveau du port de Mombasa, mais aussi qui a la frontière avec un grand pays en termes de superficie comme la Tanzanie, l'Ouganda, le Soudan du Sud, l'Éthiopie au nord et la Somalie. La capitale du Kenya, c'est Nairobi. Et ne vous y trompez pas, le Kilimandjaro, c'est pas au Kenya, mais c'est en Tanzanie. Sauf que la voie la plus simple pour y accéder, c'est en passant par le Kenya. Et aussi, Nairobi est un centre économique et commercial majeur sur le continent africain, un peu comme Casablanca l'est pour plusieurs pays d'Afrique subsaharienne et même pour plusieurs pays d'Afrique, dont le Kenya a deux langues officielles, tout comme le Maroc. On y parle l'anglais et le swahili. L'économie kenyane est diversifiée avec des secteurs clés tels que l'agriculture, les services surtout, et l'industrie manufacturière. Il y a beaucoup de personnes qui ont investi au Kenya dans l'industrie manufacturière. L'agriculture est un pilier essentiel avec des exportations de thé, de café et surtout les fleurs. Le tourisme joue également un rôle important grâce à la richesse de la faune des parcs nationaux. En plein Nairobi, il y a des parcs où, lorsque vous vous positionnez, vous pouvez voir des animaux sauvages se balader. C'est assez extraordinaire. De plus, Nairobi est reconnu comme un hub pour les start-up technologies en Afrique, notamment dans les technologies financières. Personne n'oublie que c'est pratiquement à partir du Kenya que s'est développé ce qu'on connaît aujourd'hui sous l'appellation de « mobile money ». Mais en réalité, le Kenya l'a développé depuis très longtemps et une entreprise qui est présente là-bas contrôle 90% du mobile money local qu'on appelle le M-Pesa. M-Pesa. Alors, ces dernières années, le climat des affaires s'est amélioré au Kenya grâce à des réformes en matière de gouvernance et de réglementation. Les initiatives comme Big Four Agenda, qui sont axées sur le logement, la santé, l'agro-industrie et la fabrication, ont stimulé les investissements. Et puis le Kenya, c'est un pays où l'administration est assez ouverte. On peut rencontrer facilement des autorités et discuter avec elles.
Alors Idriss, parlez-nous à présent des opportunités d'investissement qu'offre le Kenya avec le Maroc notamment.
Du coup, pour les investisseurs marocains, le Kenya offre de nombreuses opportunités, notamment dans les infrastructures. Le Maroc peut y vendre sa technologie. Les technologies financières, là aussi, le Maroc a une grosse avance. L'agriculture moderne, je le dis toujours, le Maroc a beaucoup de choses à partager en matière d'agriculture, surtout en zone froide, parce que, en zone froide ou sèche, parce que le Kenya abrite les deux climats. Et voilà, le Maroc peut aussi partager son avance en termes d'énergie solaire, en termes d'énergie éolienne, parce que le Kenya a beaucoup de montagnes, beaucoup de zones venteuses, mais n'en tire pas toujours profit. Et je rappelle que une fois, je me rappelle, à Casablanca, le groupe Atidjari Wafa avait organisé cette rencontre entre l'Est et l'Ouest. Le Kenya était le pays à l'honneur. Je pense qu'au niveau du Maroc, on continue de penser qu'une jonction en Afrique entre l'Est et l'Ouest serait une opportunité de faire exploser le continent. Je rappelle qu'entre Dakar, à l'ouest de l'Afrique, et Nairobi, presque à l'est du continent africain, il faut compter jusqu'à 8 à 9 heures de vol. Vous imaginez, lorsque je quitte un pays comme le Cameroun et que je m'en vais en France, seulement après 6 heures, je suis en France. Mais là, vous êtes en Afrique, vous quittez Dakar et vous allez à Nairobi et vous faites 8 à 9 heures de vol. Dans le Kenya, c'est une distance très longue, mais c'est un pays intéressant et je pense que les Marocains devraient essayer de découvrir ce pays, pas seulement pour son exotisme, ou alors pour les points communs comme la dualité des langues, mais surtout pour les opportunités de business qu'offrent les 50 millions d'habitants de ce pays-là.
Merci à vous, Idriss Lingé, directeur des rédactions de Media Mania, qui édite entre autres l'agence panafricaine Ecofine. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Je rappelle que vous pouvez retrouver Eco-Emergence sur nos plateformes Média Podcast et sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Média et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah. Thank you.